Bonjour à tous, bonjour les devs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode de news pour octobre. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et oui, retour des épisodes de news avec toute l'actualité où on va parler de JS. Avec le fameux Netscape qui arrive avec ses 30 ans, on va parler de refonte, de migration, de PHP, on va parler de MCP évidemment,
Bonjour.
on va parler de services IA qui nous facilitent la vie, on va parler de DHH et de son Omar Chi, est-ce qu'on n'est pas arrivé sur une Linux orientée pour les devs, on va parler de compiler. C'est le programme de cet épisode de news. On attaque?
Allez go, c'est parti. Netscape, 30 ans déjà. Alors Netscape, le 2.0, c'est le premier navigateur qui a eu JavaScript intégré dedans en fait. En gros, c'est la première fois où un navigateur a intégré JavaScript. Et il a 30 ans.
Et là, c'est là où tu dis, ouais, mec, on est vieux. Là, mec,
Alors, je l'ai pas
on
trop
est
connu
super
Netscape
vieux.
hein, personnellement. Moi, je suis arrivé, il y
Ouais.
avait Explorer, je sais plus quoi, 5 peut-être ou 4, je sais plus. Enfin, je sais rien.
Ouais. C'était la
Mais
révolution quand même, hein. Netscape, c'était le truc top, top, top de gamme. Mais
ouais.
c'est beau, c'est beau. Ça a 30 ans, ça
Et
fait
pour dire
partie de.
que, ouais, tu vois, JavaScript, voilà, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Et il a beaucoup évolué depuis cette version de navigateur, puisqu'au début, c'était juste pour faire des. Je sais même pas, c'était pour valider les formulaires, un truc comme ça, je crois, au début, non?
Mais
Je me
ce qui est
rappelle plus.
vachement bien, c'est que maintenant, on a quand même des API natifs qui marchent plutôt bien.
Ouais, c'est un vrai
Et
langage maintenant.
exactement. Et mine de rien, aujourd'hui, bah, ça évolue encore parce qu'il y a encore des nouveaux en fait, navigateurs qui émergent. Même si, on va pas se leurrer, c'est quand même tout orienté chez Chrome. Basé sur Chrome, mais là il y a Helium qui ressort, en tout cas qui sort avec un prisme en fait de zéro interruption.
Ouais.
Tu
Ouais,
vois.
ça, c'est ce qu'on voit déjà dans pas mal de navigateurs, tu vois, privacy, ad blocking, tout ça, voilà, on retrouve à peu près toujours la même chose, donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à chaque fois de sortir un nouveau navigateur? On en a pas mal. Ça m'a fait penser aussi cette news à, je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de Lady Bird, un
Ouais,
navigateur qui est prévu normalement pour 2026, bientôt.
mais qui avait pour ambition, et c'est là où c'était intéressant, de tout réécrire de scratch, et
C'est ça.
c'est-à-dire de s'affranchir du moteur de Chromium, enfin de Chrome Chromium, pour justement tout réécrire de scratch. Ils ont levé je sais pas combien, ils se sont enfermés dans une cave, je crois, et ils bossent, quoi.
Ouais, ça fait 2 ans qu'ils sont enfermés.
Ouais.
On en avait parlé, je pense, il y a 1 an et demi, un truc comme ça. On avait dit, bon, bah, c'est 2026, c'est loin et tout. Eh ben, c'est bientôt, en
On
fait. Donc,
arrive,
j'ai
on
hâte
y
de voir
arrive,
ça.
on y
Ouais.
arrive. Mais la privacy first, je pense qu'on est complètement dans l'air du temps et il vient se mettre en frontal avec des Brave ou des choses comme ça,
Ouais, c'est
où
ça,
au lieu d'ajouter des plugins, là en fait on coupe court nativement à toutes
ouais.
les interruptions et les
Il y en a un
privacy.
paquet hein, de navigateurs. Moi, j'avais aussi Zen Browser aussi, qui est un truc basé sur Firefox aussi, pareil, Privacy First et tout ça. Opera, là, celui que tu utilises. Des fois, on nous demande ce que c'est le navigateur que tu utilises,
Oui,
c'est
c'est
Opera.
Opéra.
Il est aussi basé sur Chromium.
Ouais.
Et aussi, on pense à. Alors, petite pensée émue à. Comment ça s'appelle? Le navigateur d'IA, qui a été. Alors, on a déjà parlé, qui a été racheté
Dia.
par. Ouais,
D
DIA,
Arc Dear Company
Arc et
Dia.
DIA,
Ouais.
voilà, qui a été tout racheté par Atalassian et qui, j'ai appris il n'y a pas longtemps, Atalassian, alors petit aparté, est en train de basculer tous les produits qui étaient self-hosted, enfin ce que tu pouvais auto-héberger, ils sont en
Oui.
train de tout basculer sur le cloud obligatoire. Donc super compagnie, merci DIA, à bientôt, c'est fini pour vous.
Et
Voilà.
ouais, et bah, de toute façon, c'était à prévoir. Il y avait pas de
Voilà.
pas de surprise à ça. Cloudflare qui vient avec un nouveau site assez joli, assez punchy, plein
Ouais.
d'énergie, orange. Ils ont
Pour les
peut-être
workers.
Ils ont peut-être expliqué un petit peu plus ce qu'ils font. Donc, ils ont fait de la pédagogie. C'est joli, c'est très bien designé. Néanmoins, tant qu'ils n'ont pas vu leur interface de chez Cloudflare, ça reste quand même assez. Ça pique les yeux, quoi.
J'espère qu'ils vont refaire aussi l'interface. Ouais,
ouais, exactement.
Moi, c'est pas pire qu'Amazon. Hein, mais...
Au moins, le site commercial est vraiment bien et bien fait. Ça explique vraiment bien les choses, comment ça marche, tout. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas possible de l'utiliser comme ça.
Et il est basé sur Astro. C'est pour ça qu'aussi j'avais vu. En fait, il a été construit avec Astro. Voilà. C'est pour ça que je l'ai vu, la news. Les mecs étaient tout fiers et tout.
Excellent. Trop bien. Et Astro qui continue à grossir. Hein.
Ouais, bah justement. En plus, j'avais vu juste avant, il y a peut-être 10 jours, où Cloudflare a fait un sponsoring à Astro. Je ne sais plus combien ils leur ont filé. Pas mal d'argent. Et derrière ça, bah, ils sortent le nouveau site Worker sur Astro. Donc, tu vois, comme quoi. Ouais, Astro, ça continue. C'est robuste.
Solide pour faire des sites statiques, top. Allez, autre news, Craft CMS s'affranchit de son moteur, on va dire, peu moins populaire et vient faire sa migration sur Laravel.
Alors, Craft CMS, c'est un CMS qui est peu connu, mais qui est très, très bon, en fait, très excellent. Enfin, c'est vraiment excellent comme CMS, qui est payant, une partie payante, une partie gratuite. Et il était basé sur Y2, c'est un framework américain qui existe depuis longtemps, avec les Active Records, des trucs comme ça. Vraiment, tous les trucs bien faits, tout comme on peut retrouver dans pas mal de frameworks comme Laravel. Et ça faisait un moment que tout le monde leur disait, mais pourquoi vous passez pas sur Laravel, machin. Et ils ont enfin craqué, ça y est, ils passent sur Laravel. Donc la version de Craft 6 sera basée sur Laravel, donc il devrait sortir d'ici courant 2026 et ça va être cool parce que ça va ouvrir pas mal de possibilités pour le développement, tout ça. Même si c'était déjà bien ouvert, on pouvait créer des modules, des plugins, tout ça. Moi, j'ai pas mal de sites que j'ai développés sur Craft CMS.
Donc, tu feras la migration ?
Alors je sais pas si ça sera compliqué ou pas, mais on verra. Mais ils vont certainement prévoir que ça soit faisable, en tout cas. Mais vraiment un très bon CMS, multi-langue d'origine, GraphQL, tout ce que tu veux. Enfin, c'est multi-utilisateur et tout. C'est le CMS qui fait tout bien et propre et carré. Pour les entreprises, c'est vraiment un super CMS, quoi. Et top. Pour même les particuliers.
Voilà. Top, top.
Ouais.
Allez, petite évolution dans l'écosystème WordPress IA, qu'est-ce qu'ils viennent rajouter? Est-ce que c'est des MCP qui viennent s'intégrer? C'est quoi?
En fait, ouais, WordPress, ils sont en train de... Ils ont dédié une équipe pour faire... Ils ont créé une équipe dédiée à l'IA. Donc au sein de la compagnie, enfin d'Automatique et aussi de l'organisation,
du corps,
qui donc travaille sur plein de sujets. Donc on avait déjà parlé d'une IA qui crée des blocs dans les dernières news le mois dernier, mais il travaille sur plein de sujets. Et là, le sujet en fait, c'est d'intégrer au plugin actuel un système pour que le plugin déclare en fait ses abilities, donc tout ce qu'il est capable de faire. C'est une sorte de, je sais pas, de langage à de LLMS.txt, tu vois. En gros, il va dire, voilà, je fais ça, tu peux faire ci, machin, module. Du coup, l'LLM va pouvoir interroger le plugin et savoir ce qu'ils font et après pouvoir interagir avec eux, etc. Donc, on voit que petit à petit, l'IA rentre dans l'écosystème WordPress avec des choses comme ça, des idées, des projets, de MCP, etc. Donc, voilà. Je pense que d'ici peut-être courant 2026, on aura certainement des choses mieux intégrées dans WordPress et notamment les MCP, tout ça, où on pourra demander à ton éditeur de faire des choses, tout ça.
Non, c'est pas mal. Après, sur la rédaction de la doc et sur l'interprétation de la doc et tout ce qui est communication avec les agents, c'est sûr que là, c'est pas super glamour à faire, mais ça amène beaucoup, beaucoup de valeur. Parce que on va pouvoir générer et mieux utiliser ton logiciel. Ça devient un indispensable, donc clairement. Et donc WordPress l'a bien compris et vient œuvrer en ce sens. Trop bien. Allez, on fêtait les 30 ans de Netscape, 10 ans de Adonis. Adonis, qui se veut un peu le Symfony ou le Laravel de l'écosystème. Sous l'écosystème JS, donc c'est un modèle MVC classique. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Perso, ouais, je l'ai jamais utilisé. Ça me paraît assez intéressant et en plus beaucoup. Il y a un écosystème déjà assez fourni qui sur lequel il y a beaucoup de maturité. Il y a 10 ans déjà, donc ce qui veut dire que c'est pas un framework qui va s'éteindre et qui va popper. Donc c'est vraiment solide.
Il y a une grosse communauté. Il y a une grosse communauté. Et puis c'est vraiment le Laravel en JS. C'est vraiment un peu l'équivalent, quoi. Vraiment pareil. Hein. D'ailleurs, il y a Inertia dessus, tout ça, un peu ce qu'on retrouve aussi chez Laravel.
Modèle vue contrôleur. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis ce qu'il explique en fait, c'est que maintenant le gars là, il travaille dessus à plein temps. Donc c'est plutôt cool et après le futur en fait il a deux projets, c'est de, si tu scrolles un petit peu vers le bas, le futur là, tu vois, c'est Adonis JS Plus, un truc pour les entreprises, pour gagner du temps, etc. Et en fait il cherche des solutions pour gagner un peu de l'argent, quoi, pour pouvoir continuer. Et puis Adonis JS Insider, c'est sponsor programme, voilà, pour
les personnes qui contribuent à l'évolution du corps de Adonis. Pour
sortir la V7.
Pour les rétribuer. Yes. Petit système qui va peut-être pas faire plaisir aux designers, mais qui pourrait être intéressant pour nous développeurs quand on n'a pas toujours le sens du design ou le sens des couleurs. Petit système qui s'appelle Web Studio Inception, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, Inception, ouais.
Inception, très bon film.
C'est meilleur que le film. Non, ah, t'as bien aimé, t'as. Merde, pas, désolé. Moi, j'ai pas trop aimé.
Là, ça pourrait être un casus belli de sortir définitivement de Double Slash. On ne rigole pas avec Nolan.
Inception, ça va encore. Non, Inception, ça va. Faut comprendre le truc, mais bon. Mais bon, le pire, c'est Tenet. Je sais pas si t'avais vu Tenet, mais ce film, j'arrive même pas à le regarder plus d'un quart d'heure, en fait. Bon, bref.
Non, moi, je suis fan.
T'es fan aussi, fan. Merde. Ah, oui, bon, je crois qu'on va se séparer, alors.
Donc Inception, c'est un outil IA sur lequel on inscrit le style, les émotions, les couleurs, un semblant de layout, et ils viennent nous sortir un design qui, lui, a directement interprétable en HTML, c'est ça ?
En fait, tu as un prompt, hein, t'as un truc de prompt, tu peux rajouter comme tu disais, style, émotion, des couleurs, tout ça. Tu vas prompter, il va te sortir des frames, en fait, des designs déjà prêts, tout ça. Même, tu peux même scroller dans le frame et tout, donc c'est assez complet. Et derrière, tu peux soit l'exporter, HTML, Tailwind CSS.
Ah. OK.
Ou le mettre directement dans Web Studio pour créer des pages directes.
OK.
Parce que Web Studio, je rappelle, c'est un CMS un peu à la Webflow. Voilà.
Ok, donc c'est un peu le low-able un peu de tout cet écosystème, en fait. C'est un peu dans la même veine, quoi. Excellent. Donc
c'est un peu ça. Alors après, à voir si... alors, Web Studio étant... je crois qu'il est open source, hein, Web Studio. Donc tu peux l'auto-héberger, Web Studio, normalement, il me semble, si je ne me trompe pas. Alors, à voir si ça, Inception, va être dans le même style, ou on pourra peut-être l'héberger soi-même et mettre ses clés OpenAI, tout ça. Je ne sais pas.
Et pour le coup, tu payes au crédit. Donc, tant que ça tourne, il n'y a pas d'abonnement. En tout cas, sur la version qu'ils présentent, il n'y a pas de plan payant. C'est tu payes à la conso, quoi.
Ouais, il y a un free, et puis après, tu payes, je ne sais plus, mais voilà.
Oui, de toute façon, c'est toujours à peu près le même délire. Mais Inception, en fait, fait partie de tout l'écosystème Web Studio. Excellent. Excellent. Allez, on en parlait tout à l'heure sur le off, en fait, sur la révolution avec Omar Sy. Est-ce que en fait, DHH, donc le créateur de Rails, en fait, on avait marre d'avoir que ce soit compliqué, de configurer sa machine. Il se sentait, on va dire, pas free. Et en tout cas, il voulait lever une friction qu'il y avait. Et donc, il a créé sa propre distribution Linux et qu'il a appelé Omarchi. Et l'avantage, c'est qu'elle est orientée pour les développeurs, c'est-à-dire une installation directe, et on a tout en fait l'écosystème de dev qui va bien. Donc on pense à toutes les bonnes applications, on passe à tous les raccourcis, on pense au shell, donc on vient en fait surenchérir avec tout ce qui est .files ou ce genre de système qu'on était obligé de faire après. En fait, post-installation, il fallait qu'on configure notre machine. Là, en fait, l'idée, c'est d'avoir la distribution Linux et les fichiers de configuration directement intégrés pour que ça soit vraiment, vraiment orienté pour le dev. Et il vient avec un petit manuel pour nous expliquer tout ça. Il y a une vidéo qui est... Alors, je vais regarder... Il y a une vidéo de présentation. Si on va directement sur omarchi.org, en fait, on a directement une vidéo où il explique le concept, pourquoi il a créé la genèse du projet. Et ça va sur les Windows Manager, sur les raccourcis de palettes commandes ou les choses comme ça. Voilà, tout est intégré, ça marche out of the box. Après, on aime ou on n'aime pas DHH, ça c'est à vous de voir, on est bien d'accord. C'est un personnage clivant.
Ouais, exactement.
Soit t'aimes pas. Après, il vient avec une solution et beaucoup de gens en fait qui ont testé. Avouent que même sur une vieille machine, en fait, ils ont installé Omarchi sur une vieille machine et ça consomme que dalle parce qu'ils ont vraiment optimisé leur distribution Linux. Et pour les devs, c'est vraiment orienté pour les devs. Ça marche out of the box, ouais. Et on n'a rien à configurer. Est-ce que c'est la révolution ? Je ne pense pas. Est-ce que moi, je vais migrer ? Clairement, non.
Oh, je suis déçu. Non. Je te voyais bien sur Linux.
Non, pour le coup, je ne suis pas encore prêt. Peut-être que je le saurai un jour.
Sur un vieux Mac. Mais, si t'as un vieux Mac, tu peux.
Exactement. Mais par contre, je vais tester, je vais installer le process, je vais voir, je vais jouer avec parce que j'ai plein de vieilles machines et je pense que ça peut être cool de tester pour voir vraiment ce que c'est, quoi.
Carrément. C'est quoi les... ils vendent des t-shirts aussi ? Je vois qu'il y a déjà des t-shirts et tout.
Ouais, après, en fait, ils ont un merch qui est standardisé dans tous les... en fait, toutes les marques ou tous les produits de chez 37 Signals, qui est la boîte, en fait, pour chaque Hotwire, Rework, tout, ils ont... Pour toute marque, en fait, ils ont un espèce de merch où il y a de la fringue, du t-shirt à l'américaine, quoi. Tu vois, on fait du merch partout, ouais. du t-shirt et du sweat à capuche. Et donc, tout l'écosystème de chez eux, en fait, ils ont fait ça.
À quand les t-shirts double slash, quoi?
Une casquette double slash, bien sûr.
Ah, si ça vous intéresse, attends, les auditeurs et auditrices, si ça vous intéresse, t-shirt. Mettez-nous des commentaires. Je veux un t-shirt, je veux une casquette.
Et pour le coup, t-shirt, alors par contre, ça serait vraiment typiquement le type de projet qu'on pourrait faire en live pour la mise en place sur le site de merch, tu vois. On fait ça en live et on code ça en live. Ça peut être super intéressant, quoi. Carrément.
Ouais.
Dites-le nous
avec
en commentaire.
Évidemment. Ouais, carrément.
Et allez, bascule sur l'écosystème Nuxt UI, qui est la librairie de composants qui avant était payante. Et comme on l'a annoncé, oui, il y avait une version payante et une version qui était la version pro, et il y avait une version gratuite. Aujourd'hui, les deux ont fusionné dans la V4 dû à l'acquisition de NuxLab par Vercel. Et généreusement, ils nous offrent en fait la version pro. On l'avait annoncé il y a 2 ou 3 épisodes. Là maintenant, c'est officiel, c'est fait. Tout est en place et tout est accessible directement depuis
et c'est vraiment Nux vraiment UI. bien sûr.
Alors
moi j'avais jamais utilisé avant cette version là et j'avais jamais utilisé avant la version. Alors j'ai commencé à l'utiliser, c'était encore en alpha, je sais pas quoi, la V4 là. Et j'ai mis ça sur un Laravel Inertia, donc vu en front Nux UI, c'est une tuerie quoi.
Bien sûr.
Moi justement je voulais pas du chat CN tout ça machin parce que je trouve ça trop compliqué et là Nux UI c'est vachement simple en fait, c'est hyper simple et c'est super bien foutu, tu peux modifier comme tu veux et tout, c'est top quoi. Et là en version free, nickel quoi.
Encore mieux.
Ouais.
Non, il y a vraiment tous les composants et pour le coup moi j'ai dû faire un POC en 2.2 sur avec ça, mais c'était magique quoi, c'était magique. Et non, pour le coup, très très bonne librairie. Si vous êtes dans l'écosystème Vue, Nuxt,
franchement. Ouais, moi je fais un intranet. Un intranet, tu vois, c'est de l'admin, quoi. C'est des listes et tout ça, des formulaires. C'est nickel, quoi.
Et t'as même pas besoin de customiser, mais si t'as besoin, en fait, tu peux après en fait, venir customiser tes règles. Et là, tu mets ton propre design, tu mets ton thème que tu veux. Et, et tu vas construire, en fait, toutes tes valeurs, en fait, tu vas overrider toutes tes valeurs par défaut de CSS. Et ça marche juste trop, trop bien. Tu as un Figma en plus. Donc, si tu as besoin de faire de la démo, ou en tout cas pour les designers, il y a possibilité. Non, franchement, c'est top.
Ouais, super boulot. Ouais.
Allez, on repart sur MCP, Laravel MCP qui vient en bêta. À quoi ça va nous servir, ça ?
À faire des serveurs MCP. Bah, tout le monde le fait, donc pourquoi pas Laravel ? Non. Alors, il me semble qu'il y a déjà des trucs MCP quand tu installes Laravel, là, parce que j'ai vu des commandes MCP. Mais là, c'est pour, c'est pour créer des serveurs MCP, comme on a dit dans les dernières news, je crois, où on a parlé d'un package officiel MCP Symfony. Bah, là, c'est pareil, mais c'est Laravel. Donc, tu peux créer facilement des serveurs pour pouvoir donner à ton LLM des tools. Et puis voilà. Et du coup, c'est vachement facile.
Excellent. Et donc, ils viennent officialiser, en tout cas structurer toute la création de MCP via Laravel. Par contre, c'est en bêta. Alors, je ne connais pas l'écosystème.
Encore en bêta, ouais.
Je connais pas l'écosystème Laravel. Ça marche sur des feature flags. Il faut que tu l'actives ou tu l'installes.
Non, je pense que tu installes le package. Il me semble que c'est déjà... J'ai l'impression que c'est déjà intégré parce que j'ai vu des commandes. Alors, tu sais, tu as une commande artisan, ligne de commande que tu utilises dans ton terminal. Et j'ai déjà vu des trucs MCP passer, donc c'est déjà dedans, j'ai l'impression. Ou sinon, après, tu l'installes en package Composer. Et après, tu as les lignes de commande pour créer. C'est make.mcp avec le nom du MCP que tu veux créer. Il va te créer le fichier et puis après, tu rajoutes ton code. Okay.
Et c'est quoi la terminologie chez Laravel quand c'est en bêta? Ça va beaucoup bouger ou ça va mettre longtemps avant que ça soit vraiment en RC puis après
ça va très vite.
Ça va très vite.
Ils vont vite. Ouais, quand c'est bêta, là c'est encore en bêta, j'ai regardé justement hier. C'est encore en bêta, mais ça veut dire que ça se trouve dans un mois, ça sort quoi. Okay. Non, les mecs ils bossent quoi.
Ok, ouais, c'est solide. C'est pas comme
ça. Ça reste pas 6 mois en bêta.
comme chez Google où ça reste alpha pendant 2 ans.
9 ans ouais.
Ouais. Okay. Gmail. Non. Ouais. Solide. Ok, version 1 pour le coup là de React Compiler. Donc maintenant, on va être obligé de compiler nos applis React. C'est quoi ce truc ?
Non, t'es pas obligé. Mais c'est conseillé. En fait, on en avait parlé il y a un petit moment parce que ça fait plus d'un an, je crois, qu'ils travaillent dessus. Mais l'idée, c'est de compiler en fait ton code React. Pour résumer, quand tu fais du React, tu utilises des hooks, useEffect, useState, tout ça. Et comme on est tous très mauvais, et moi y compris, hein, on utilise des fois mal les hooks. Donc, on a des re-renders qui sont appelés inutilement. Et donc, ce compiler est capable d'optimiser ton code en nettoyant les hooks qui servent à rien, tout ça, en recompilant tout ça. et il te rend ton code hyper performant par rapport à ce que tu avais écrit. Donc voilà. Donc voilà l'intérêt de compiler. Donc c'est vraiment un projet à part. T'es pas obligé de l'utiliser. Hein. Quand tu fais un truc en React, il n'y a pas le compiler d'office. Hein. C'est toi qui dois le rajouter. Et tu vas le mettre dans ta toolchain. Alors là, assez étrangement, ils sont sur Babel. Bah ouais. Oui. Truc qu'on n'utilise plus, mais voilà, ils sont sur Babel.
Après, c'est peut-être donc, justement voilà. Pour aller lire tout ce qui est rétrocompatibilité ou peut-être qu'ils sont obligés de passer par...
Parce que hier, j'ai lu tout le truc là. Je me dis, mais pourquoi ils sont partis sur Babel? Parce qu'en fait, Vite, là, Vite devient le truc par défaut et majoritairement utilisé. Et Vite, alors tu peux utiliser Babel avec Vite, mais par défaut, il n'utilise pas Babel, Vite. Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter Babel. Donc il y a la doc là qui t'explique comment faire, machin, tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut rajouter Babel à Vite pour pouvoir utiliser le compiler. Enfin, c'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi ils ont. Alors ils travaillent sur les versions SWC, machin, tout ça. Enfin, tous les autres compilers. Mais là, tu te dis, mais putain, les gars, quoi. Babel, quoi. On n'est plus en 2018, quoi.
Ouais, après, s'ils le font, c'est que. Enfin, moi, ce que je vois, c'est.
Ouais, il y a une raison, c'est sûr.
À la fin, en fait, l'application, elle est plus rapide, elle est plus performante. Tu vois. Et ça rajoute une étape pour nous, développeurs, dans le système de CI, tu vois, de déploiement, on va dire. La version très, très, très globale, OK, ça rajoute une étape. Par contre, le bénéfice pour l'utilisateur final, il est réel. Donc, qu'importe l'outil utilisé, la fin, en fait, justifie le fait que, ouais, à la fin, t'as un truc qui est plus performant, donc c'est bien. Et peut-être que si ils ont utilisé Babel, c'est qu'ils ont peut-être des raisons de le faire, quoi. Donc,
ouais. Okay. Peut-être c'est une première version, on va dire. Après, ça va évoluer, mais de toute façon, c'est la V1, donc... Mais ouais, donc de toute façon, comme tu dis, hein, code vraiment beaucoup plus performant, mieux écrit, tout ça. Donc, c'est intégré à Next, c'est possible d'utiliser sur Next, c'est intégré dans la version 15, je sais pas combien. Et puis voilà, c'est plutôt conseillé de l'utiliser quand même, si on peut. Quoi.
Excellent.
Un gain de performance.
Allez, autre dans le même idée, enfin dans la même veine, tu as dit qu'aujourd'hui Vite était devenu un outil, on va dire incontournable de l'écosystème du dev. Aujourd'hui, ouais. Suite à la VitConf, en fait, où ils ont annoncé un Vite Plus. Ça fait, c'est le mec du marketing de chez Apple qui est venu.
On va faire un abonnement, ce sera le
Vite Plus. OK. Non, clairement, en fait, ils avaient lancé déjà l'année dernière la fondation, là où je ne sais pas si c'était une fondation qui s'appelait Void Zero, exactement. Et là, en fait, ils viennent avec du un peu plus concret, on va dire. C'est une suite globale pour scaffold tes projets, pour faire du dev, pour faire du lint, du formatage, test et ton build, quoi. Donc c'est vraiment toute la chaîne de la chaîne, chaîne de développeurs, quoi.
Ouais, c'est une vidéo. Alors on mettra le lien de la vidéo, mais sinon c'est facile à trouver, hein. Vous faites vite conf, vous trouvez Evan Yu, c'est la conf d'Evan Yu. Elle dure 38 minutes, donc c'est pas très long. Je l'ai regardé ce matin. Elle est super intéressante. Et donc, en fait, il appelle ça le cargo. Alors, cargo, c'est l'outil pour Rust. Il appelle le cargo du JS, en fait. Donc, voilà, c'est l'outil qui est capable de tout faire avec une seule ligne de commande. Tu vas développer, tu vas linter, tu vas formater, tu vas faire du monorepo. Alors, attention, je ne sais pas si c'est le courant, mais... ils font du monorepo avec du cache monorepo, un peu comme TurboRepo.
Ouais, excellent.
Il est capable de gérer plein de choses et il est capable de le gérer très bien. Et voilà, et ça fait tout. Et tout ça unifié sur une seule base, en fait. Donc, clean. Voilà, donc c'est Vite, c'est Rolldown, c'est OXC et Vitest, en fait, tout ensemble. Et ils travaillent encore sur des outils, ils passent tous les plugins sur Rust, etc. Donc voilà, c'est de plus en plus performant, donc c'est pas encore totalement fini, hein, de toute façon. Le cache, il n'y a pas besoin de config, ça fonctionne. Voilà, tu vas builder, tu vas linter, il y a du cache derrière. S'il n'y a rien qui est changé, bah, ils réutilisent le cache tout seul, machin, tout ça, donc c'est vraiment top.
Et pour le coup, tu vois, moi, j'ai migré sur ton outil de build, en fait, tu peux... au moment où tu builds ton application, tu peux en fait par défaut vite marche avec roll-up.
Ouais.
C'est le système classique. Le nouveau
Ouais.
système, c'est roll-down. Et
Ouais.
en fait, ce que tu peux faire, c'est déjà dans ton application maintenant, là, en fait, tu overwrite, en fait, au moment de ton build, tu overwrite roll-up par roll-down. Et ce qui
Ouais,
fait que
l'option, ouais.
en fait, tu bénéficies de cette puissance, on va dire, du Rust au moment de ton build où tu construis ton application. Et pour le coup, c'est vraiment significatif.
Ah
Et
oui.
juste ça, moi, ça m'a fait gagner du temps vraiment sur le build de tous les packages. Là, j'ai vraiment gagné du temps, quoi. Donc,
Bah oui, c'est clair.
c'est hyper
Sur un gros
intéressant.
projet, ouais.
Et après, quand il y aura la toolchain qui sera de bout en bout, là, ça sera peut-être encore
Ouais.
meilleur. Excellent. Il a donné des annonces. C'est quoi? C'est gratos, c'est payant, ça sort quand?
Alors, ils ont des tarifs. Alors, c'est free pour l'open source, pour tout ce qui est non commercial et tout ce qui est petit business. Style, toi, tu es freelance, tu fais des petits projets, c'est bon, quoi, tu peux y aller, c'est free. Ils n'ont pas donné de prix encore, mais en fait, il a dit, voilà, on pose ça, on ne sait pas vraiment, ça ne sera pas forcément comme ça, on va réfléchir encore, voilà, le meilleur business, tout ça. Mais voilà, il y aura une version payante pour les entreprises. Il a expliqué en fait que pour les organisations, les entreprises, parfois, tu as plein de projets, il y en a qui sont legacy, tout ça, il faut migrer les tools et tout ça, machin, c'est compliqué, il faut que tu expliques à ton manager que voilà, ça va prendre tant de temps pour passer de Webpack à Vite, tu vois. Et le mec, il te dit, mais pourquoi?
Pourquoi ça marche? Et
Pourquoi?
pourquoi on n'a pas besoin? On n'a pas
Donc en
besoin.
gros avec avec Vite Plus, ça serait la fin de ce casse-tête en fait, puisque tu n'auras plus besoin de gérer tout tooling, tout ça machin, tu feras juste ton application en fait. Donc tu n'auras plus besoin de te casser la tête, c'est eux qui gèrent, c'est Vite Plus. Donc oui, il y aura une version payante, mais ça va éviter tous ces problèmes voilà, sur les projets. Donc voilà, c'est ça la promesse, c'est pour ça qu'il y aura une version payante pour les entreprises, tout ça.
Par contre, est-ce que ta version free aura des fonctionnalités limitées ou en fait c'est juste l'usage et les services qui seront offerts, enfin pas offerts, mais qui
Je
seront
sais pas
mis à
encore.
disposition?
Je sais pas encore. C'est possible que ça concerne le cache aussi, cette histoire de. Puisque voilà, sur Tuboripo, tu as le cache qui est à distance. Donc
Oui.
c'est possible qu'il y ait une histoire de cache aussi, parce qu'il parle de free tier generous. On ne sait pas encore. Ils ont pas donné tous les détails, mais
Ouais.
à voir quoi.
Ok. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va surveiller ça de près et de toute façon, on vous dira quand ça sort
Ouais.
et quand on aura réussi à
Alors,
avoir notre accès. Tu t'es inscrit
c'est
déjà,
clair, on
non?
va le demander. Non, j'ai pas fait, mais je vais le faire.
Ah
Je vais le
bah
faire juste
oui.
après.
Ah bah oui, clair.
Non, hier, j'ai demandé un accès, c'était quoi déjà? Je sais plus, mais j'ai. Attends, aussi, peut-être je l'ai fait déjà. Je sais plus, j'ai demandé un
Bon,
accès hier soir, mais je me rappelle plus.
tu vas le
Attends,
faire deux
je
fois.
voulais juste. Je voulais finir sur Vite, parce que tu as parlé de Rolldown, justement. Il y a un petit passage sur. Il avait commencé sur Vite au début de la conf, là. Rolldown, il est encore en bêta. Par contre, il disait qu'il était de plus en plus stable. Et il y a un gain, comme tu disais, il parle de 22 fois plus rapide pour un build, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Et il sera bientôt en bêta disponible. Donc tu vois la version plus ou moins stable bêta. Et il sera lancé sur Vite 8. Alors là, on est sur la version 7 actuellement, sur Vite 8 en début 2026. Voilà.
Excellent.
Donc voilà. Donc Rolldown arrive voilà, bientôt.
Et pour le coup, moi j'ai gagné des minutes
Ah bah ouais, tu
sur l'application, vraiment. Donc
m'étonnes. Ouais. Et
ouais.
puis ça va être encore plus rapide avec Vite Plus quand il y aura tout en reste, quoi.
Trop bien, trop bien. Allez, petit framework sur lequel on avait déjà échangé, qui s'appelle Elysia. Par contre, je
Ouais.
découvre en fait que il est basé sur Bun en fait. Et
Ouais, c'est
je
ça.
savais pas ça.
Mais moi non
J'étais
plus.
persuadé que c'était. Après, est-ce que tu peux le mettre
Non,
que
c'est que
sur
Bun.
Node ou pas? C'est Bun ou rien?
Non, il a été développé sur Bun, sur le voilà, basé sur Bun, donc ce qui fait qu'il est hyper rapide, machin, bidule, qu'il est TypeScript natif, qu'il est ultra typé. D'ailleurs, tu peux changer d'outil de typage. Il y a plusieurs outils qui sont proposés. Enfin, il fait énormément de choses, mais c'est surtout, voilà, le gros truc, c'est bun et ultra typé, en fait. Voilà.
Excellent. Et pour le coup, on peut tout mettre sur un seul fichier. Donc, c'est vraiment quelque chose type micro-framework, un peu à la Express. Voilà, depuis un seul fichier, on va pouvoir déclarer des routes. On va faire un get slash image, get stream, get real time avec du WebSocket nativement, point listen sur le 3000 et basta. Donc, avec un micro-fichier, on va pouvoir faire ça immédiatement et récupérer toutes les infos. Donc, hyper intéressant, petit, ultra léger. Après, clairement, moi, je vois déjà l'utilité sur, genre, je veux faire un micro-framework avec deux endpoints pour faire du calcul ou faire un render de je sais pas quoi. Bah, je vais utiliser ça. J'ai pas besoin d'avoir toute une arborescence de fichiers, des librairies. Je sais que ça, je vais faire une API en 2.2, hyper safe, on va dire type safe, avec une modernité et tout l'écosystème qui va derrière, sans pour autant avoir 20 000 fichiers à gérer, quoi. Donc,
ça, c'est en plus, t'as plein de plugins, là, que tu peux rajouter pour GraphQL, tout ça, Open API, okay. Il y a plein de choses, donc vraiment bien.
Okay.
Assez complet quand même.
Tu peux venir en fait overwrite ton framework de base, en fait, tu vas pouvoir avoir des plugins officiels sur des cron, des JWT, du Open API, de la télémétrie, du statique. Et après, tu as les communautés, tu as la communauté qui est venue en fait proposer des
Il y a pas mal de trucs disponibles. Hein.
Donc, nice.
Et puis, en plus, Bun, tu sais, tu peux, comment on appelle ça, tu peux générer, tu peux le compiler, ton projet, avec Bun, et avoir un seul fichier, standalone, c'est ça, ouais. Tu fais un fichier standalone,
qui
va mettre sur un... Bun propose ça, donc je pense que tu peux le faire aussi avec ça, du coup, ça...
Ah oui, trop bien. Ah ouais, c'est cool. Par contre, là, je vois Node.js, c'est, tu peux quand même...
Ah, c'est un fonctionnel, ouais.
Apparemment, tu pourrais l'utiliser avec Node.js aussi, quoi.
Okay. Ouais, ça a l'air dispo, ou c'est peut-être pour utiliser le package Node. Ouais, je sais pas trop.
Mais en tout cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Enfin, ça a été développé et optimisé pour Bun.
Ouais.
Excellent. Excellent.
Ah, tu peux l'utiliser sur Next, regarde. Oh.
Ouais. Et t'as... Ok, mais super micro framework qui me paraît
intéressant. Super, alors arrêtez d'utiliser Express, nom de Dieu.
Ouais, là par contre, vous avez vraiment.
Ça suffit.
C'est fini, quoi. Faut arrêter. C'est clair. Allez, toujours sur la migration des outils, la réponse de Cursor à Cloud Code avec son intégration de sa CLI. Cursor vient avec maintenant sa CLI, donc on a notre agent directement en ligne de commande. Comme ça, on peut poser des questions et être dans le concept de terminal headless et tout ça. Bon, après, je sais pas si les utilisateurs de Cursor, en fait, sont les mêmes qui utilisent la CLI et qui veulent une CLI. Après, est-ce qu'ils le font par riposte à Cloud Desktop?
Ouais.
Ou ils le font parce que les personnes le demandent. Tu vois, ça,
je sais pas. Comme je te disais avant, je comprends pas en fait cette utilisation de CLI, mais je comprends pas. Mais peut-être que j'ai jamais vraiment utilisé, peut-être que je comprendrai le jour où je vais utiliser. Mais...
ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est particulier. Moi, personne non plus, c'est pas mon délire. Je suis pas
allé. J'avoue que dans Warp, là, le terminal, c'est parfois c'est sympa qu'il t'aide un petit peu à faire une commande parce que
je me souviens plus
Linux, comment tu fais machin.
Ah ouais, tu fais ton grep spécial là que tu utilises une fois tous les trois mois. Et c'est sûr que si quand t'as pas l'habitude, tu le connais pas, ouais, là ça t'aide, ouais, clairement.
Alors après, je sais pas, est-ce que c'est le même délire, je sais pas. Bon, faudra tester parce que ça m'intrigue. Bah du coup, ouais, GitHub sort dégaine la même chose. Voilà. GitHub Copilot aussi, pareil, un CLI.
Tout le monde se regarde et tout le monde sort les mêmes types de features. Et donc, GitHub,
c'est ça qui est fou, en fait.
Copilot. Bah ouais, en fait, c'est pour ça que je me pose la question. Tu vois, est-ce que vraiment il y a une demande ou comme il y en a un qui l'a sorti, les autres se sentent obligés de le sortir aussi, quoi. Tu vois.
Mais c'est ce qui se passe en ce moment, en fait, au niveau de l'IA, c'est que voilà, on a la même chose à MCP. Alors MCP, c'est bon, tout le monde doit sortir sa doc sur MCP. Là maintenant, il y a les CLI. Allez, on sort tous les CLI. Enfin, les mecs, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore d'innovation ou c'est juste on se suit les uns les autres, quoi.
Qui fait la trend. Après, est-ce que tu vois, on revient sur les fondamentaux, mais est-ce que au final, c'est pas nous développeurs qui allons bénéficier de tout ça? Parce que en fait, les mecs ils se tirent la bourre, hein, tu vois, ils vont sortir la micro feature hein, qui va changer le truc, tu vois. Je sais pas, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on peut plus faire sans. Ça, c'est sûr.
Ouais, c'est bien.
On avait parlé dans l'épisode précédent de l'attaque en fait de la vulnérabilité qui s'était introduite dans les packages npm avec via un système assez complexe. Et aujourd'hui, on a plusieurs réponses pour justement vérifier en fait ces packages npm n'ont pas été en fait infectés avant même la publication. Et donc, avant d'installer le package, en fait, on va essayer de le passer dans une sorte de scanner. Et ça s'appelle npq. Donc, c'est une solution qu'on vient installer sur sa machine ou sur le projet.
Celui-là, j'ai pas essayé, alors je peux pas te dire, mais je pense npq. Ah, j'ai l'impression que ça doit être en global, non, que tu l'installes.
Ouais.
Je sais pas s'il explique un peu plus bas, mais parce que là, il fait npx, donc. Celui-là, je l'ai pas testé. Hein. Et d'ailleurs, de quel. Parce que. Alors, je spoil un peu, mais juste après, on en a un autre. Le deuxième va interroger une base de données. Donc celui-là, peut-être qu'il interroge aussi une base de données, mais laquelle, npq, je sais pas.
Et là, l'autre système que tu as spoilé et qui s'appelle Solar ouais. Firewall, en fait, on vient l'installer de manière globale et ouais. On vient mettre un préfixe, donc c'est SFW en préfixe de son npm ou pnpm ou bun, install ou que sais-je. Et en fait, ça vient mettre un firewall, donc un filtre pour justement tester si on n'a pas des packages qui sont compromettants. Ouais. Quoi.
Ouais, bah eux, justement, quand tu vas installer, ils vont aller interroger la base de données par rapport au package que tu as et te dire est-ce que celui-là, il y a un problème ou pas, en fait. Donc, l'autre, je pense que ça va être le même principe, mais je ne sais pas quelle base de données. Parce qu'en fait, il faut qu'ils scannent régulièrement en fait, tous les packages. Ils ne peuvent pas le faire à la volée, tu vois. Donc,
ouais, ouais.
Ils ont une base de packages qui a été scannée, machin, tout ça, qui est disponible d'ailleurs sur leur site, savoir s'il y a un problème ou pas. Mais c'est pas mal. Et moi, celui-là, je l'ai installé direct. Dès que j'ai vu la news, ça fait plusieurs jours. Et,
Service payant ou pas ?
Il y a gratuit et après, tu as payant pour les entreprises, ouais.
Ok. Donc, nous, on va dire simple développeur, on peut vraiment l'utiliser et l'installer de manière gratos, quoi.
Ouais, tu peux l'utiliser. De toute façon, oui, tu peux l'utiliser gratos. Après, il y a des trucs en plus si tu payes. Mais je sais même pas s'il y a un tarif encore. Donc, ouais. Et ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai fait un alias. Pour pas s'embêter, en fait, j'ai fait un alias dans mon. J'ai fait SNPM. Et du coup, ça m'appelle SFWNPM à chaque fois.
Ok, donc, coup, S comme secure, quoi. Tu vois.
Ouais, voilà. Et d'ailleurs, j'avais fait pareil pour NPMI, j'ai un alias aussi, NPMI, ça va me vérifier les packages qui sont à mettre en update. C'est okay. Pas mal aussi. J'aime bien les alias, je ne sais pas si t'en sers.
Vas-y, je vais faire une demande, Patrick. Tu ne pourrais pas nous faire un petit blog post avec tous tes alias qui vont bien?
Ah ouais, si tu veux. Ah bah pour GitHub, c'est pratique. Hein. Tu fais. Moi, j'ai GAC, c'est GitHub, AD et Commit.
Ouais.
J'en ai d'accord. Comme ça, GC, GAC, voilà. Ou Artisan, par exemple, pour Laravel, j'ai fait Art, tu vois, plus court.
Voilà. Et vas-y, Patrick, tu nous fais un petit blog post où tu partages tous tes alias et ça pourrait être sympa. Oui. Et au pire, on pourra en rajouter aussi.
Bah ouais.
Yes. Top. Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode. Ça te va ?
Ouais, bah ouais, carrément.
Nickel. À bientôt pour d'autres épisodes. Et évidemment, comme toujours, on vous invite à mettre un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode.
Et merci aux sponsors.
Et évidemment, merci aux sponsors. Et on vous dit à très vite, à bientôt.
Ciao.